La parole va être donnée à Monsieur Yasser Louati, qui est commandant de bord et instructeur dans l'aviation civile, mais également président du comité Justice et Liberté en France, une ONG internationale qui travaille sur la question des libertés, donc comme son nom l'indique, et de la justice. Voilà, ben, je vous cède la parole, Yasser.
Bonsoir à tous. Je tiens à vous remercier de votre présence. Je tiens à remercier le professeur Jalila et le professeur Lawrence pour le séminaire. Je sais qu'au vu de l'actualité, ce sont des sujets qui sont quasi radioactifs. Pas une semaine ne passe sans polémique, pas une semaine ne passe sans surenchère identitaire, sécuritaire, où on tord le cou à l'histoire et on tente de la faire entrer, ou plutôt de faire entrer des carrés dans des sphères, etc. Concernant la présentation d'aujourd'hui, ce sera concernant, bien sûr, les ex-Daesh et l'après-intervention en Turquie et l'urgence avec laquelle on est encore en train de tenter de traiter de ces problématiques-là. Il y aura un petit rappel historique, les dates clés. Une question avait été posée, entre autres, je crois, sur l'Afghanistan et sur... c'était vous, monsieur, sur l'Afghanistan, etc. Donc, on va voir ça ensemble. Et le but, c'est de voir, en fait, les répercussions qu'il y a entre la politique étrangère menée par la France, s'il y en a une, et les répercussions sur la sécurité intérieure et le cadre juridique qui évolue malheureusement de mal en pire. On l'a vu avec l'état d'urgence et le fait qu'il est devenu quasiment permanent et les violations des libertés qui sont devenues maintenant quotidiennes. On sait que ça a commencé par les banlieues et ce qu'on appelle l'immigration postcoloniale dans les quartiers populaires et qui s'est maintenant traduite sur les violences contre les mouvements des Gilets jaunes. On voit que des journalistes sont convoqués pour leurs investigations en se servant justement des lois relatives à l'état d'urgence, etc. Le CIG n'est pas une grande organisation comme la FIDH, donc nous n'avons pas non plus cette visibilité. Ça a été fondé en 2017, justement pour avoir une approche intégrée sur des questions de droit et de liberté, et en même temps une action qui soit transversale. Donc nous agissons sur trois fronts, qui est la recherche et l'investigation. On a commencé depuis maintenant 2 ans et on a pérennisé l'action, c'est-à-dire maintenant c'est de la recherche traditionnelle ou bien en interne ou bien en commissionnant des universitaires qui mènent des travaux à notre demande, bien qu'il y ait des charges qui établies. L'investigation, on la mène comme... J'appartiens à la génération qui a grandi avec Wikileaks, donc vous voyez à peu près le logiciel avec lequel on évolue. Pour nous, l'information est primordiale. Des citoyens non informés sont des citoyens qui ne peuvent pas voter. Si nous n'avons pas accès... Monsieur Laurent, c'est en train de saborder ma présentation, je le remercie. Et donc, ce travail d'investigation, pour nous, est primordial. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'avec l'état de la presse aujourd'hui en France, le fait que 98% de la production médiatique appartient à 8 personnes, qu'on est constamment submergé d'informations, malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur l'actualité. Et maintenant, une fois qu'on a produit du savoir, il va bien falloir le disséminer. C'est un reproche que je fais régulièrement aux universitaires, que j'ai fait aussi à Jalila, en disant que malheureusement, les universitaires font beaucoup de travaux de qualité, mais leurs travaux restent sur des étagères et ne sont pas accessibles au commun des mortels, ou en tout cas à la société civile, pour qu'elle puisse au moins s'en servir dans son action quotidienne. Donc il y a un besoin de vulgarisation, il y a un besoin de dissémination. Et notre but, c'est d'avoir des sessions d'éducation populaire qui peuvent être, par exemple, des formations gratuites, connaître ses droits, comment les faire valoir, comment agir dans une situation donnée. Une application est en cours pour accorder des fiches juridiques. Ça va de discrimination, harcèlement sexuel, etc. Et le troisième point, et celui-ci le plus ambitieux, ce sont les actions stratégiques en justice. On a une approche qui va à rebours de ce qui se fait habituellement, à savoir une organisation qui devient un point de passage obligatoire pour les victimes de discrimination, de harcèlement, de violence ou de violation des droits ou des libertés, c'est-à-dire là où il y a une action potentielle qui peut faire aboutir soit la jurisprudence ou bien faire avancer le débat public, trouver les actions qu'on peut mener collectivement, soit le CJL en tant que seul, soit en coalition ou soit en assemblant ensemble les personnes qui ont des réclamations à faire en espérant que ces actions collectives puissent aboutir. C'est extrêmement ambitieux. La France n'est pas les États-Unis. Nous avons un cadre juridique qui est spécifique et qui permet beaucoup moins ces class actions qui sont menées aux États-Unis régulièrement. Ceci dit, alors notre action en France, on se focalise en France justement sur l'éducation populaire et sur les investigations. On a publié une série. Ça concerne des mairies, ça concerne la police, ça concernera d'autres administrations bientôt. Les enquêtes sont en cours. Ce sont des journalistes professionnels qui, à un moment donné, se disent « Bon, j'aimerais faire autre chose que de travailler quotidiennement dans une newsroom ?» Salle de rédaction. Et là, ces investigations-là sont publiées à la demande. On s'inscrit vraiment sur la durée. On n'est pas sur faire le buzz permanent. On n'est pas là en train de demander est-ce qu'on fasse un tapage immédiat, mais plus quelle information on peut rendre publique et à quel moment. On appartient aussi au consortium monté par la Commission européenne qui s'appelle Lutte contre l'islamophobie structurelle en Europe. Et donc, c'est un consortium composé de 5 pays, France, Royaume-Uni, Espagne, Italie et Pays-Bas. Nous travaillons sur les thématiques, voilà, comment est-ce que le racisme se dissémine dans les discours publics, comment est-ce qu'il affecte les personnes au quotidien et qu'est-ce qui peut être fait justement pour ne pas le normaliser d'un côté et, comme vous le verrez dans la présentation, pour pas qu'il ne profite à d'autres organisations. On est aussi actif en Amérique du Nord en essayant de rassembler des acteurs de la société civile. En ce moment, c'est plutôt la Californie qui nous accueille. La côte ouest a été très réceptive à notre discours, justement, sur les lois sécuritaires. Il y a un problème, bien sûr, avec l'état d'urgence en France, qui a été mondialement couvert. Et les gens voulaient savoir ce qui se passait en France en termes de lois d'exception. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent CVE, Countering Violent Extremism. Et c'est aussi, encore une fois, sous couvert de lutte antiterroriste. On se met à violer les libertés individuelles. Ça a commencé avec le Patriot Act en 2001. Et ça a continué jusqu'à ce qu'un certain Edward Snowden révèle au monde les pratiques du gouvernement américain contre ses propres citoyens. Et la même chose est faite avec le programme Prevent en Grande-Bretagne. C'est toujours la même chose, l'approche antiterroriste sur fond de discours islamophobes. Et par islamophobie, ce n'est pas l'interdiction de critiquer l'islam, c'est de s'en prendre aux personnes qui pratiquent cette religion. Donc on est la polémique. Pour entrer dans le vif du sujet, on avait la ministre des Armées, Françoise Parly, qui déclarait le 15 octobre 2015 « Si certains djihadistes périssent, tant mieux ». On a même eu des personnes de l'opposition, pour ne pas les nommer les Républicains, comptez qu'ils soient Républicains, qui demandaient carrément des exécutions ciblées, bien sûr extrajudiciaires. On avait aussi plus tard une déclaration de Christophe Cataner, qui, à ma surprise, a déclenché un tollé qui disait « D'abord, ce sont des Français avant d'être des djihadistes ». Et on voit bien qu'il y a une tentation de traiter ces ex-Daesh qui devraient passer devant la justice et de les déchoir de leur nationalité, de s'en défaire, de les garder le plus loin possible et de ne surtout pas avoir à les affronter ou de les faire rentrer. Et on verra pourquoi est-ce que le rapatriement des Français est d'abord dans notre intérêt à tous avant de les laisser aux mains des autres. Pour commencer, j'aimerais faire une petite remise en contexte avec quelques dates qui sont quand même importantes sur l'évolution de ces mouvements-là. Donc on a pour commencer, j'ai inversé les dates, pardon. Donc 1982, invasion du Liban et naissance du Hezbollah. 1979, invasion de l'Afghanistan et la naissance des talibans. 1991, occupation, entre guillemets, bien sûr, installation des bases américaines en Arabie Saoudite qui nous donne la naissance d'Al-Qaïda. 2003, l'occupation de l'Irak par les États-Unis et nous avons la naissance de Daesh. On verra dans quelles circonstances. Ça n'a jamais été du jour au lendemain, mais ça a été une évolution des mouvements sur place. 2006, invasion de la Somalie par l'Éthiopie et naissance des Al-Shabaab. 2011, la France intervient militairement en Libye. Bref, on connaît la suite. Alors, 2003, on a bien sûr Paul Bremer qui accomplit l'œuvre toute une vie, qui se met à dissoudre l'armée américaine et qui met sur le marché 500 000 personnes qui avaient déjà un statut et un prestige de par leur appartenance au parti politique Al-Ba'ath, et ensuite, bien sûr, 500 000 personnes qui étaient armées et entraînées et qu'on a mis sur le carreau du jour au lendemain. En même temps que Paul Bremer décidait de liquider l'État irakien en le vidant de tout membres du BAF, donc on avait des personnes qui étaient certains de farouches militants, d'autres qui faisaient partie du parti politique et le BAF de Saddam Hussein, parce qu'il fallait avoir un travail, parce qu'il fallait se protéger, parce qu'il fallait montrer patte blanche. Là, Paul Bremer, le gouverneur américain sur place, a dit « Je ne veux plus en entendre parler, qu'ils partent tous et qu'on reconstruit le pays à partir de zéro. Sauf qu'en 2003-2004, on a eu l'opposition irakienne qui a commencé à se soulever. Entre 2003 et 2004, on a eu les révélations concernant Abu Ghraib et les révélations que nous connaissons. Elles ont fait le tour du monde et je lisais même que cette personne-là que vous voyez au milieu, qui tient un homme nu en laisse, n'a démontré aucun regret. Lorsqu'elle a été interrogée il y a, je crois, un an ou deux, elle a dit « je n'ai aucun regret ». Et il valait mieux leur faire ça que ce soit eux qui nous le fassent subir. Dans cette prison, il y avait un certain Ibrahim Awad Ibrahim Ali Badri El-Samara'i. Donc, son nom, gardons-le comme Ibrahim Awad Ibrahim, au matricule que vous voyez en dessous, US 9IZ-1579-11CI. Cette personne-là fera parler d'elle un peu plus tard et on verra ce que les prisons irakiennes dirigées par l'occupant américain ont fini par nous léguer à nous au reste du monde. Entre-temps, en 2004, Al-Qaïda en Irak, dirigé par Abu Musab al-Zarqawi, déclare la guerre à l'occupant US. En 2006, les Américains lancent ce qu'ils appellent le plan de réveil des sunnites, à savoir chercher à acheter l'allégeance ou acheter la fidélité des chefs de tribus sunnites qui, en retour, se retourneront contre Al-Qaïda en Irak. En même temps, les conflits sectaires explosent entre sunnites et chiites. L'Irak n'est plus ce qu'il était. Et entre-temps, Al-Qaïda en Irak devient Daesh. 2014, déclaration du califat, comme on le sait tous, et l'émigration de 40 000 personnes, dont 5 000 combattants étrangers d'origine européenne. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ces personnes-là sont parties ? On fait le constat a posteriori, on remarque le départ, mais qu'est-ce qui, à un moment donné, précipité ces départs ? Ce certain Ibrahim Awad, Ibrahim al-Badri, etc., al-Samari, c'était Abu Bakr al-Baghdadi. Et l'information concernant sa détention, on a d'abord dit qu'il était dans le camp Bouka, mais il s'avère qu'il a passé à peu près 10 mois à Abu Ghraib. On sait que ça a été un des viviers de Daesh en Irak, et on sait qu'aujourd'hui, non seulement l'invasion de l'Irak par les États-Unis a détruit un pays, la France avait prévenu, c'est ce qu'il a honoré en 2003 et a fait de Jacques Chirac un héros dans le monde arabe et même à travers le monde, mais on sait que maintenant, cette invasion, non seulement a détruit un État, mais le chaos qui a été provoqué par sa destruction de l'État irakien a fait émerger le groupe terroriste Daesh. Et encore une fois, nous nous retrouvons à courir après les conséquences au lieu d'agir en amont. Depuis, on sait ce qui s'est passé. Les attentats de 2015, Charlie Hebdo, l'hypercachère, le Bataclan, les terrasses et les 136 morts qui en ont suivi, si ma mémoire est exacte. Et entre-temps, on a la chute de Daesh qui a été précipitée avec l'intervention de la Turquie dans le nord de la Syrie. Et c'est là qu'on commence à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui se retrouvent dans la nature ? On aurait pu y penser avant, on aurait pu agir en amont, mais encore une fois, on est encore une fois en train de courir derrière les événements. Alors les chiffres varient concernant les personnes sur place. Je vous en suis tenu à la Fondation Egmont en Belgique, qui nous parle de, pour les Français en tout cas, vous le voyez, entre 130 à peu près adultes, 270 et 320 enfants. Les chiffres, si vous les confirmez de votre côté ? À peu près ça, ouais. Donc les chiffres, on s'y accorde, à quelques individus près, voilà où nous en sommes. Donc nous parlons bien de 124 personnes, et aujourd'hui on voit bien que le débat concerne, est-ce qu'il faut les rapatrier ou pas ? Ces personnes-là sont-elles françaises ou non ? Donc lorsque Christophe Castaner déclare qu'ils sont français avant d'être djihadistes, peu importe ce qu'on peut penser de Christophe Castaner et de sa position au ministère de l'Intérieur et de son mandat, ou dans le code de son action, on sait que c'est un fait. Ils sont partis en tant que français. Au nom de qui et de quoi est-ce qu'on devrait se dire aujourd'hui ben parce qu'ils sont partis, ils ne sont plus français. On peut être français et toujours ennemi de la France, comme on le verra un peu plus tard. Alors, les options qui ont été offertes à l'opinion publique, on refuse de rapatrier, qui se débrouille, qui reste à l'extérieur. On joue la montre, on joue le chronomètre. Pourquoi ? Parce que les élections approchent, parce que c'est un sujet qui va devenir tabou à l'approche des municipales, etc. Et un certain cynisme pourrait tendre à nous faire croire qu'on gagne du temps pour que justement certains disparaissent pour de bon, que certains soient exécutés, que certains soient littéralement liquidés, pourquoi pas. L'option numéro 2, les remettre à la justice irakienne. Numéro 3, la justice kurde. Numéro 4, justice syrienne ou encore la justice internationale. Alors voilà ce que donne le sondage le plus populaire. 82% des Français approuve la décision de laisser l'Irak juger les djihadistes français. Très pratique. 89% des Français se disent inquiets du retour de djihadistes en France, 53% se déclarant même très inquiets. Et il y a de quoi. Les Français, 67%, souhaitent aussi laisser les enfants de djihadistes en Irak et en Syrie. Alors, passons en revue rapidement la justice irakienne. Bon, elle est quand même signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques, signataire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, et dégradants. Mais entre-temps, on a eu des rapports de l'ONU, une étude du GSRDC qui à peu près évalue différentes sociétés en disant est-ce que la justice fonctionne ou pas, etc. Et on se rend bien compte que les détentions arbitraires sont légion, on sait que la torture est quasi systématique, on sait que des viols ont été commis, on sait que la justice est... C'est une coquille vide, avec des juges qui sont soumis à des pressions, sectaires ou non, des juges qui sont intimidés, les procès expéditifs. Vous parlez d'une demi-heure, M. Baudouin, le cabinet Bourdon, lui, parlait carrément de 10 minutes pour une condamnation à mort, et bien entendu, l'application de la peine de mort. Donc, est-ce que la France a y gagné? Est-ce que la France reste crédible lorsqu'elle dit « je les remets à la justice irakienne », sachant que ces personnes-là sont judiciables en France? Le problème qui se pose, c'est qu'en remettant ces personnes-là à la justice irakienne, on reconnaît de facto la légitimité de la justice irakienne pour juger de citoyens français ayant commis des actes en Syrie. Sauf que le code pénal irakien permet à la justice irakienne de juger des personnes qui ont attenté à la sécurité du pays, que ces actes soient commis à l'étranger ou bien à domicile. Donc maintenant... Il y a une question que j'aimerais vraiment poser à la fin de ma présentation, c'est quel est l'intérêt de la France de laisser la justice irakienne juger ces personnes-là lorsqu'on sait que les prisons irakiennes ont été les incubateurs de ce qui deviendra Daesh par la suite et que malheureusement, on est encore en train de courir après les événements et on s'invite dans une situation qu'on ne pourra pas gérer encore plus tard. La troisième option étant la justice kurde. Les Kurdes se battent pour leur indépendance, mais les Kurdes ne sont pas encore un État. Donc il n'y a pas de négociation avec l'Union européenne. On ne peut pas parler de justice à proprement parler. Les Kurdes ont d'autres chats à fouetter que de garder plusieurs milliers de combattants étrangers. Et surtout, les Kurdes en Syrie n'ont pas la légitimité qu'ont les Kurdes en Irak parce que les Kurdes au nord de la Syrie sont perçus comme des satellites du PKK turc. Et donc là, ça ouvrirait la brèche à ce que la France se retrouve aussi bien en conflit avec l'Irak qu'avec la Turquie sur cette question-là. La justice syrienne, je vous laisse observer ce dernier rapport sur cette organisation qui a comptabilisé les crimes commis par le régime de Bachar el-Assad. Donc, je ne suis pas bon mathématicien, même si je suis pilote, mais je pense que le régime de Bachar el-Assad a commis bien plus d'exactions que Daesh même. Aussi barbare que Daesh puisse être, le régime de Bachar el-Assad n'est en aucun cas un interlocuteur crédible pour parler de justice, et encore moins d'interlocuteur crédible pour juger de crimes qui ont été commis ici en France. Donc là, c'est le moufti syrien qui s'adresse directement aux Occidentaux, alors que les Occidentaux menaçaient de faire renverser Bachar el-Assad et de soutenir la résistance. Je vous la fais très simple. Si vous vous en prenez à la Syrie, nous avons des kamikazes prêts à être déployés à travers l'Europe et qui s'en prendront à vous et à vos intérêts si jamais vous touchez un... tout est traduit en dessous. Je le dis à l'Europe et je le dis à l'Amérique. Si vous bombardez la Syrie ou le Liban, je préparerai des kamikazes et ils sont actuellement entre vous. D'abord, c'est vous qui faites les actes du mal, et je dis désormais, œil pour œil et dent pour dent, etc., etc. Donc, est-ce qu'on a véritablement envie de remettre ces anciens combattants de Daesh aux mains du régime syrien, en sachant qu'à tout moment, ces combattants peuvent être instrumentalisés et qu'on aura affaire à un chantage syrien, comme jadis on a eu affaire à un chantage iranien, et j'en passe différents pays qui se servent de groupes terroristes ici et là pour faire avancer leurs intérêts. La cinquième option qui avait été mentionnée, c'était de mettre sur pied un tribunal international. Je m'en suis arrêté à ceux qui mentionnent la Cour pénale internationale, et voici ce que dit Fatour Bensouda. En gros, elle dit que la CPI n'a pas juridiction pour juger ces personnes-là. Et en plus, si on devait se mettre si on devait mettre sur pied un tribunal international, combien de temps est-ce que ça va mettre ? L'Irak a demandé 2 milliards d'euros pour qu'un tribunal soit mis sur pied chez eux. 2 milliards. Personne en Europe ne paiera 2 milliards pour faire juger ces personnes-là. Mais aujourd'hui, on voit bien que tenter de se débarrasser de ces personnes-là en les remettant à la justice internationale, à une autre autorité judiciaire, ne sont absolument pas des options réalistes. En même temps, se jouent les intérêts nationaux. Pour commencer, à quel moment est-ce que les victimes d'attentats ici en France auront accès à la justice ? Est-ce que remettre ces personnes-là entre les mains d'une justice qui n'applique pas les standards de justice internationale, en tout cas d'autonomie et d'impartialité, à quel moment est-ce que les familles de victimes pourront confronter les personnes qui ont commandité ou non, ou en tout cas qui ont été des acteurs des différents attentats ? Le renseignement se plaint beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent dans le renseignement ici. Bon, ce n'est pas grave, hein, ça arrive. À quel moment, on sait que le renseignement se plaint beaucoup du manque d'informations. On sait que beaucoup disent « nous n'avons pas des yeux sur place, nous ne savons pas ce qui se déroule, etc. » Et à un moment, on vous dit « voici ces personnes que vous pouvez juger sur place en France. Il y a non seulement le devoir de justice qui peut être fait, mais en même temps, est-ce que ces personnes-là ne sont pas des sources d'informations hautement cruciales si on veut continuer une action antiterroriste de qualité ? » Alors bien sûr, on a pris le virage tout sécuritaire, on a fait passer la loi surveillance en faisant croire que, en mettant tous nos téléphones et toutes nos communications sur écoute, en ayant accès à nos historiques sur Internet, ça allait combattre le terrorisme. Et on voit bien que toutes les batteries de lois sécuritaires qui ont été passées les 30 dernières années n'ont pas empêché que des attentats soient perpétrés sur le territoire national. Je reste surpris sur le fait que vous avez des témoins clés sur ce qui se passe là-bas ou ce qui aurait pu se passer ici en France, et nous, on nous dit qu'il faut qu'ils restent là-bas. À quel moment est-ce qu'on se dira « fini avec l'impunité » ? Donc, on fait exécuter des personnes là-bas. On a eu l'exécution de Alaa Al-Awlaki, qui était un citoyen américain exécuté par drone au Yémen. On voit bien qu'on a eu des ordres qui étaient donnés, c'était pourtant anticonstitutionnel aux États-Unis. Donc, on a ces personnes-là qui sont exécutées de manière complètement illégale et on refuse que ces personnes-là comparaissent devant la justice. Donc, il y a véritablement une frustration légitime qui naît de faire durer l'impunité à chaque fois que les personnes, en tout cas des cadres de ces actions-là, sont appréhendées, elles sont exécutées. Et donc, il y a un moment où on se dit, quand est-ce que ces personnes-là comparaîtront devant des cours de justice dignes de ce nom ? Les engagements internationaux de la France, M. Baudouin en a parlé, nul besoin de revenir dessus. Et bien entendu, ce serait aussi faire preuve de deux poids, deux mesures, parce que des Français qui partent combattre à l'étranger, ils ne partent pas seulement en Syrie ou en Irak. Bien sûr, les laisser sur place, donc au-delà des incubateurs que seront les prisons syriennes ou irakiennes, c'est qu'on prend le risque majeur de voir ces réseaux se réorganiser sur place, que des cellules qui ont été détruites se recomposent via des alliances, via des rencontres, et bien entendu, en laissant femmes et enfants sur place, permettre à ces réseaux-là de se reconstituer. Et moi, je parle aussi bien des enfants sur le territoire national qui ont été les premiers témoins des perquisitions contre des familles musulmanes, contre des commerces musulmans, contre des mosquées ici même en France, et ces gamins qui ont été les premiers témoins, on en a traité, qui ont vu leurs parents menottés, qui ont vu leur maman sortie du lit en sous-vêtements, qui ont vu leur père humilié, on a vu des couples qui ont explosé à cause de l'état d'urgence, des assignations à résidence. Ces gamins-là, d'accord, on va ignorer. Dans 15 ans, à quoi est-ce qu'on va avoir à faire ? Quand un enfant grandira en disant « c'est la police nationale qui a humilié ma mère, c'est la police nationale qui a mis en joue mon père, etc. etc. » Donc on est en train de créer un nouveau problème. Certes, sur la communication politique, on marque des points, regardez, on montre ses muscles, vous allez voir ce que vous allez voir, sauf qu'entre-temps, on ne fait rien. On est juste en train de dire Nous prenons un virage répressif pour répondre aux craintes de l'opinion, mais on sait bien que, et je vous invite à lire ce que produit quelqu'un comme Vincent Nouzi dans son livre qui s'appelle « Erreur fatale », où il montre bien que personne ne pilote réellement l'antiterrorisme français depuis maintenant 30 ans. Personne. Donc aujourd'hui, la question que je pose, c'est à quoi jouent les décideurs politiques en refusant de prendre leurs responsabilités et en permettant, en tout cas en semant les graines, pour qu'un nouveau groupe émerge dans moins de 5 ans. Alors, on nous dit, bien sûr, la France refusera la peine de mort. D'accord ? Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on enverra un message aux Irakiens pour leur dire « Votre justice, en tout cas, vous n'avez pas de souveraineté, puisque on vous laisse ces personnes-là, mais vous pouvez seulement les juger selon nos conditions à nous. » Non. Ces personnes-là, si elles sont françaises, elles rentrent en France et elles se font juger en France. Et ce n'est pas à nous de dicter aux Irakiens comment est-ce qu'un procès doit être conduit. On peut certainement aider l'État irakien à se reconstruire, mais absolument pas à leur remettre des ressortissants français pour qu'ils y soient jugés. Je ne parle même pas de la Syrie. Les intérêts, bon, je les ai résumés en 4 points. Le besoin de justice, le besoin de renseignement, le besoin de former et bien sûr le besoin de prévenir. Je reprends le rapport Junot sur la lutte contre le terrorisme qui a fuité, je crois, en 2014 et qui remontait, je crois, à 2012, qui avait même remis à Jean-Marc Ayrault, si ma mémoire est correcte, et qui disait clairement que nous n'avons aucune action proactive pour prévenir. Ça veut dire que nous sommes dans le tout sécuritaire et nous ne faisons que réagir aux événements. L'autre point, et j'en parlerai, c'est la manière avec laquelle la politique antiterroriste est menée, de manière discriminatoire vis-à-vis des communautés musulmanes. Alors d'un côté, on nous dit ce sont les premières victimes du terrorisme. Reprenez les chiffres. Les musulmans dans le monde sont de loin, très loin, très très loin, les premières victimes du terrorisme international. Mais en même temps, ici, dans leur pays, aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, elles sont perçues comme la première communauté suspecte en termes de lutte antiterroriste. L'autre problème qui se pose, c'est que nous avons, par exemple, la mise sous surveillance de toutes les mosquées de France. On sait très bien que toutes les mosquées sont surveillées, tous les prêches sont enregistrés, tous les imams sont connus, tous les membres des bureaux sont connus, etc. Or, on tend à nous faire croire que la radicalisation, et on verra que c'est un terme fallacieux que je récuse, que la radicalisation, entre guillemets, se déroule au sein des mosquées. Or, si toutes les mosquées sont surveillées, si l'État lui-même dit que les organisations cultuelles collaborent avec l'État, si nous avons même des fuites qui montrent comment des imams et des présidents d'associations collaborent avec leur renseignement intérieur, comment est-ce que ces lieux-là peuvent être en même temps des incubateurs de radicalisation ? On sait très bien que la radicalisation, en tout cas ce qu'on appelle la radicalisation, ne se fait pas à l'intérieur des lieux de culte, mais elle se fait à l'extérieur. Or, les musulmans, jusqu'à maintenant, ne sont pas censés remplacer l'État et encore moins nos services de renseignement. Le besoin de former, c'est un point qui est assez important, c'est que on a souvent, et je ne jette l'amalgame, enfin je jette l'anagramme sur personne, je m'en prends à personne, c'est que quand on lit ce qui se passe, les défaillances qui sont à chaque fois pointés du doigt après chaque attentat, ou en tout cas chaque attentat qui a failli être exécuté, on voit bien qu'il y a des lacunes, des défaillances, on voit bien que souvent il y a un manque de formation. Est-ce que ces personnes-là, lorsqu'elles sont rapatriées, ne peuvent pas aider à la formation, justement, aussi bien des magistrats que des personnes qui sont censées assurer notre sécurité ? Alors, déclaration toujours dans un monde de surenchère permanente, et de déclarations censées faire le buzz et reprises par les médias, en tout cas par les chaînes d'infos en continu. Nous avons Jean-Yves Le Drian qui déclare « Ce sont des ennemis. » Et des Français partis combattre contre la France, il y en avait aussi. Et il y en a toujours eu. Donc, ce qui pose problème, c'est qu'en jetant le... on ne le dit pas directement. C'est qu'on a un discours qui est alimenté d'un côté... Et en même temps, vous avez un ministre de la Défense qui vous dit « Ces personnes-là, ce sont des ennemis ». Justement, ce sont des ennemis qui ont pris leurs armes contre la France. Ils doivent rentrer pour être jugés. Et là, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de monde. Des Français partis combattre à l'étranger, il n'y a pas qu'en Syrie ou en Irak. Il y en a aussi qui sont partis dans l'armée israélienne. Ils sont 4 000. Il y en a aussi qui sont partis en Ukraine. Et on sait que l'Ukraine, en tout cas le Donbass, est devenu un centre de convergence pour l'extrême droite européenne. Alors, les chiffres, j'ai essayé de faire une ligne médiane, on en est à plus ou moins 50 personnes parties en Ukraine. Comment se fait-il que ces personnes-là ne sont pas traitées en combattants étrangers ? ce qu'on appelle foreign fighters en anglais. Pourquoi est-ce que ces personnes-là peuvent partir et revenir comme elles le veulent, sans être interrogées ni même inquiétées? Comment se fait-il qu'on peut avoir une personne qui, d'un côté, se dit français et va combattre dans une armée étrangère, ou en tout cas rejoindre des milices qui souvent agissent contre les intérêts français? Et vous voyez bien que les chiffres sont disproportionnés. 4000 pour l'armée israélienne, 700 pour la Syrie et plus ou moins 50 pour l'Ukraine. Alors beaucoup nous diront, oui, mais ces personnes-là de l'extrême droite, ces personnes-là françaises qui partent en Ukraine ne sont pas un danger pour la France. Il s'avère que c'est faux. On a eu plusieurs attentats menés par l'extrême droite, en tout cas préparés par des militants d'extrême droite. Je récuse le terme d'ultra-droite. Ils font partie de l'extrême droite. On tend à mettre ultra-droite pour normaliser un peu plus l'extrême droite. Ça reste des militants d'extrême droite qui tiennent une ligne identitaire similaire. Plusieurs ont échoué, plusieurs ont été pris la main dans le sac en amont, Dieu merci, mais on en a aussi qui vont en Ukraine apprendre le maniement des armes, apprendre à tuer et qui tentent de revenir en France. De toute façon, toute expérience du combat mené à l'étranger, qu'on soit membre de l'armée française ou d'une armée étrangère, quand on revient en France, on revient avec un savoir-faire qui est létal. Et on voit bien ici, on a un Français qui est parti rejoindre l'Ukraine et qui tentait de commettre des attentats contre des personnes de confession musulmane ici en France. On a le contingent français dans l'armée de Tsahal qui est le premier, en tout cas en Israël. Ça ne pose pas de problème, on peut même lever des fonds pour faciliter leur départ. Et lorsqu'ils reviennent, ils sont même accueillis en héros. Un soldat israélien ayant achevé un palestinien recouvre la liberté en héros. Alors, on avait une vidéo qui était virale sur un soldat israélien qui achève un palestinien alors que lui-même était d'origine, en tout cas avait le passeport français. À aucun moment, ces personnes-là ne sont inquiétées. Comment est-ce qu'on peut permettre que des citoyens français partent dans une armée étrangère? C'est déjà un problème. Et deuxièmement, ils vont, pour légitimer une occupation, en tout cas contribuer à des violations territoriales et en plus commettre des crimes de guerre. Donc là, on est en train d'alimenter le discours qui tend à faire croire qu'il y a une exception française dès qu'on parle de celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Alors on me dirait, oui, mais monsieur, la radicalisation, etc., c'est pas bien. Oui. Sauf que, pour commencer, il faudrait qu'on arrête de faire une déconnexion entre la politique étrangère de la France et notre sécurité intérieure. Des colloques organisés par l'OSCE et des universités, etc., auxquels on a assisté, ou des personnes qui sont membres du réseau, c'est toujours, on traite le phénomène du terrorisme intérieur comme s'il apparaissait de nulle part, comme s'il n'y avait aucun lien entre la politique menée à l'étranger et ce qui se passe sur le territoire national. Et quand on voit bien les débats menés aussi bien au sommet de l'État qu'à la presse ou lorsque des responsables politiques prennent la parole, on voit bien que ce qui se passe en France, il n'y a aucun lien avec ce qui se passe à l'étranger. Et c'est la même faute qui est commise par le gouvernement britannique qui refuse, dans sa lutte antiterroriste, de faire le lien entre ce qui a été fait en Irak et la contribution britannique à l'invasion de l'Irak et l'émergence de ce qu'on appelle les terroristes nés sur le territoire britannique. Eux, ils ne se cassent même plus la tête. Dès qu'il y a soupçon, on enlève la nationalité. Et s'ils ont double nationalité, on attend qu'ils voyagent dans leur pays d'origine ou le pays de leurs parents ou qu'ils y fassent une escale ou tout simplement qu'ils traversent la frontière. Dès qu'ils ont quitté le pays, on les déchoit dans la nationalité et ce n'est plus un problème britannique. J'envoie au rapport sénatorial de M. Bockel, et M. Carbonas, et je le cite, « Le terme de radicalisation a été adopté sous la pression des événements. Autrement dit, il n'y a pas de définition de la radicalisation. Par contre, son application est purement idéologique. Lorsque constamment vous avez l'utilisation de la radicalisation pour celles et ceux qui partent en Syrie et qui méritent encore une fois de passer devant la justice, pourquoi est-ce que la radicalisation est employée d'un côté, mais pas employée de l'autre? Vous avez, par exemple, j'étais une fois en colloque aux Pays-Bas, et j'ai un universitaire qui m'interpelle et qui me dit, j'en prends 6, et qui me demande comment se fait-il que la plateforme Stop Djihadisme a été rendue publique? Est-ce que la France ne se sent pas embarrassée par la plateforme Stop Djihadisme? Et là, je me dis, écoutez, c'est ce qui se passe lorsque des campagnes publics sont lancés sans que les experts prennent la parole. Et d'ailleurs, je reste surpris que parmi les experts officiels, qu'on voit régulièrement sur les plateaux de télévision, en tout cas, qui sont cités, ne maîtrisent pas un mot de langue arabe. Donc comment est-ce qu'on peut parler d'une région et d'une religion et d'une culture politique sans même maîtriser la langue? Imaginez-vous un instant, je vous fais une thèse sur la Constitution américaine sans maîtriser un mot d'anglais. Il y a eu en 2015 un papier publié par Dabiq, qui est la revue de Daesh, et qui s'appelait de l'hypocrisie à l'apostasie, destruction de la zone grise. La zone grise, c'est la zone de cohabitation pacifique entre musulmans et non-musulmans dans des pays qui sont majoritairement non-musulmans. En gros, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et là, je vais vous lire, ça fait froid dans le dos, et là, ça va soulever bien des questions. Cet impact amplifié des attentats oblige les croisés, c'est-à-dire les non-musulmans, à détruire la zone grise par eux-mêmes, zone dans laquelle vivent beaucoup des hypocrites, innovateurs égarés, les musulmans qui ne suivent pas Daesh, vivant en Occident. Et continue, c'est un papier qui est assez lourd, je crois qu'il y a 5000 mots dedans. Les musulmans en Occident se retrouveront rapidement face à deux choix. Ou bien ils apostasient et adoptent la religion d'apostat afin de vivre parmi les mécréants sans difficulté, ou bien ils émigrent vers le, c'est moi qui rajoute, pseudo État islamique et de fait évitent la persécution des gouvernements et citoyens croisés. Alors vous avez un castagnard qui vous dit que les signes de la radicalisation, c'est le port de la barbe. Je crois que M. Lorraine s'est mal barré, et moi aussi, et pas mal de personnes dans la salle, en sachant que lui-même porte la barbe, la pratique régulière de la religion, de la prière, pratique rigoriste. Donc en gros, on commence à criminaliser la pratique du culte musulman, en sachant en amont que les premières victimes du terrorisme international sont les musulmans eux-mêmes. Et pour citer par exemple l'ex-directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loire, Éric Loès, qui disait « Dans nos perquisitions, nous avons ouvertement ciblé les musulmans visibles. » Donc si Daesh avait besoin d'arguments, il se servirait de la communication du gouvernement pour dire « Vous avez vu, vous musulmans, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes persécutés avec les résultats qu'on connaît. » Bon, tant pis pour cela, parce que je n'ai pas de son. Avec l'attaque qui a eu lieu à la préfecture de police de Paris, on voit bien que maintenant, il y a une chasse aux sorcières qui est en cours au sein des rangs de la police, où vous avez des policiers musulmans qui sont convoqués parce qu'on les soupçonne d'être radicalisés. Étant donné qu'on n'a pas de définition fiable, en tout cas stable, de la radicalisation, ça veut dire que toute personne de confession musulmane ou apparentée comme telle, qu'on n'aime pas trop, se retrouve convoquée. On a même qu'on a convoqué et suspendu parce qu'ils avaient publié en 2014 une publication sur Facebook pro-palestinienne. On a eu un cas aussi au CJL avec la police municipale de la ville de Colombes où un agent de police s'est retrouvé dénoncé par son supérieur pour radicalisation. Manque de peau pour lui, il était musulman, il se disait lui-même « je ne suis pas pratiquant, je ne sais pas ce qu'on me reproche ». C'était en fait un conflit interne à la police municipale de Colombes. Le policier ciblé a pu porter plainte et son syndicat, j'en ferai pas la pub, a pu mener une action juridique avec lui, et bien sûr, il a été rétabli. Le problème qui se pose, c'est qu'on voit bien que, dès qu'on lance l'accusation de radicalisation, automatiquement, on criminalise avant qu'un quelconque fait soit établi. J'ai quand même compilé, entre 87 et 2013, une liste de circulaires, de lois et de mesures qui ont ciblé ouvertement celles et ceux qu'on appelle les musulmans, aussi bien la commission Marsan en 87, jusqu'aux interdictions successives de ce qu'on appelle les signes ostentatoires dans les écoles publiques, etc. Quel message envoie la France, elle qui est le pays en Europe qui a la plus grande minorité musulmane, mais qui en même temps figure parmi les premiers pays ayant envoyé des combattants en Syrie ou en Irak? C'est une question qui mérite d'être posée. Comment se fait-il qu'on a la plus grande minorité et qu'en même temps, c'est le pays qui a adopté le plus de lois ciblées ces personnes-là et qu'en même temps, on a eu un tel afflux massif? Je ne dis pas que l'un justifie l'autre. Je dis que lorsque Daesh, dans sa propagande, fait passer la France comme un pays qui déteste sa minorité musulmane et fait tout pour les exclure de la société, c'est qu'à un moment, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des responsabilités qui sont quand même à mettre en lumière? La suite, Mohamed Ben Salman a demandé un retour des troupes américaines et l'augmentation de leur contingent. Donc maintenant, avec ces djihadistes, en tout cas ces ex-Daesh qui sont restés sur place, plus Mohamed Ben Salman qui recommence l'erreur commise ou qui refait ce qu'a fait le roi Fahad dans les années 90 en invitant les armées américaines, tout porte à croire que c'est en Arabie Saoudite, c'est le calme avant la grosse tempête. Merci à vous.
Bien, nous vous remercions et remercions nos orateurs. Merci.